Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 627 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, 31 place de la Madeleine, avec un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Nous parlerons du succès, du grand succès du champagne panier, l'appellation Jurançon, les 10 ans de CA Grand Cru, les vins sans sulfite, la fête des vins à Bandol, le château Lagnotte à Saint-Émilion. Bref, un joli programme avec, bien sûr, toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux. En compagnie de Suzanne Mettez. Tout va bien, Suzanne? Bonne année,
très
Suzanne.
Bien, hein,
bonne année. Philippe Orbach et David Cobol. Bonjour, messieurs. Bonjour,
bonne année encore à tous.
Bonjour. Alors, Philippe, un commentaire sur un millésime qui vous fait sourire, vous qui l'avez loupé d'un an.
Hein. C'est vrai, c'est vrai.
C'est 1959.
C'est vrai. Mais comme je suis né au début de l'année 60, c'est bientôt mon anniversaire d'ailleurs pour tous les auditeurs, en 1959, c'est là où j'ai été fait.
Vous étiez conçu,
exact,
quoi.
Conçu. Et ouais. J'ai commencé à marcher en 61, ce qui peut
monsieur,
donner des
monsieur
idées.
Monsieur a une connaissance biologique imparable.
Exactement. C'est vrai qu'en février, on peut estimer qu'il y a quand même de fortes probabilités pour que je sois... J'ai été conçu en 59. Alors c'est un millésime, vous avez raison Alain, qui donne le sourire parce que c'est un grand millésime. Et à la fois, c'est intéressant parce que c'était bien né, les raisins étaient de grande maturité, les vins se sont bien conservés. Et en plus, on en a encore.
Il en reste.
Parce qu'il y a eu beaucoup de récoltes. C'est une récolte abondante et qualitative. Et que ce soit dans le Bordelais...
C'est un peu comme vous, Philippe. Hein.
C'est, je laisse juger.
Il n'est pas abondant, David.
Il est abondant en parole. Hein.
C'est vrai que j'essaie de bien parler et souvent de ce que j'aime
bien.
Je m'applique, surtout en début d'année, comme ça, c'est important. C'est très joli dans le Bordelais, dans les rouges, mais aussi dans les blancs et dans les liquoreux, parce qu'il y a eu un orage providentiel la mi-septembre qui a permis le développement de la pourriture noble, notamment, et des raisins et des vins magnifiques. C'est très bien dans la vallée du Rhône, j'ai des souvenirs de Châteauneuf ou d'Ermitage 59, juste extraordinaire. En Bourgogne également. En Champagne, on va évoquer tout à l'heure la Champagne, c'est un très grand millésime, 59 également. Finalement, quand on ouvre une cave et dans laquelle on est du 59,
il y a forcément une bonne surprise.
On a de la chance.
Jean-Noël Pfaff, il faut confirmer, en Champagne, vous avez déjà dégusté les 59.
Oui, j'ai dégusté les 59. Et alors, c'est bien. C'est très bien. C'est encore magnifique et d'une fraîcheur remarquable malgré la maturité.
David Cobol, qu'est-ce qu'il faut pour que des vins tiennent aussi longtemps? Parce que 59, ça fait quand même quelques années.
Il faut commencer par avoir un très bon vin, avec une belle équilibre, acidité et tout le reste.
Dès le départ, vous voulez dire?
Dès le départ. Si la matière première n'est pas bonne, ce n'est pas la peine. Mûr et bel équilibre. Ensuite, il faut bien les stocker. Ça, c'est très important. Température stable, constante, un peu d'humidité si nécessaire, mais pas trop. Et après, il faut avoir le goût pour les vieux vins. Mm-hmm. Parce que tout le monde n'aime pas les vieux vins.
Oui, c'est vrai.
Et tous les vins ne vieillissent pas d'une manière égale.
Mais ça, Philippe, le potentiel de garde, on le décèle dès le début ou alors faut attendre?
Alors, on a des éléments pour déterminer le début parce que David a raison. C'est d'abord la matière première qui est importante. Pour que le vin se garde, il faut déjà que les raisins soient de qualité. Et un raisin de qualité qui permet de garder les vins, c'est un raisin qui a de la maturité, mais également de l'acidité. C'est super important. Et pour les rouges, une concentration en polyphénol, on parle des tanins, mais c'est l'ensemble des polyphénols qui permettent d'avoir cette ossature qui garde. Ensuite, si vous avez la chance, quand on est acheté pour vous des magnums, par exemple, à l'époque, c'est bien mieux que des bouteilles parce que l'évolution est beaucoup plus favorable. On dit qu'un magnum, c'est deux fois plus de vin. Il y a la même quantité quasiment d'oxygène dans la bouteille et ça peut se garder une fois et demie de plus longtemps.
C'est assez impressionnant,
ça. Suzanne Mettez,
vous appréciez...
Donc, il y a vraiment des conditions qui font que ça marche.
Suzanne Mettez, vous appréciez les vins un peu âgés ou alors vous préférez les Jones?
Non,
les
non,
geeks,
les
vins geeks.
Mais c'est vrai qu'il faut les prendre avec leurs qualités et leurs défauts. Quoi. Il faut les...
Et au niveau du vieillissement du champagne, Jean-Noël Pfaff, avant, post-dégorgement, est-ce que le dégorgement est important quand on pense mûrissement, en tout cas vieillissement du champagne?
Oui, c'est important. Cela dit, généralement, quand on amène un vin au marché, en champagne, c'est qu'on estime qu'il est prêt à consommer.
D'accord, donc ce n'est pas pour le faire vieillir.
C'est le temps de vieillissement, c'est l'opérateur en champagne qui le fait.
D'accord. Mais si alors ensuite, après, ça vieillit encore
ou pas? Alors bien sûr, ça vieillit. Ce que disait Philippe est tout à fait juste. Deux phénomènes. Le vin en lui-même qui continue à vivre et la micro-oxygénation parce que le bouchon, il est certes étanche au niveau vin, mais il n'est pas étanche à l'air, donc la micro-oxygénation.
Et vous nous conseillez de déguster un vin âgé qui a été récemment dégorgé ou alors un vin âgé qui a été, il y a quelques années, déjà dégorgé?
Il n'y a pas de règle là-dessus. Moi, je préconise quand même, après dégorgement, qu'on ait un bon temps de repos.
D'accord.
Encore. y compris sur les vieux vins, et surtout sur les vieux vins, pour qu'on soit bien homogène.
Philippe Formac, 1959, côté vin, on a vu, c'est top. Mm-hmm. Et côté people, c'est comment ?
C'est pas mal, il faut trouver les bonnes personnes pour apprécier un bon vin. Et donc là, vous pouvez éventuellement, si vous croisez la route de Zabou, par exemple, de Victoria Abril, ou encore de Ségolène Royal, dans cette année particulière 2017, eh bien, n'hésitez pas. Et puis, si jamais vous voulez, vous préférez la compagnie aussi masculine, parce qu'il y a des gens qui ont des choses à raconter, prenez une raquette, allez joindre McEnroe. Allez, voilà, pourquoi pas partager la scène de Pascal Légitimus, regarder un film de Luc Besson, vous amuser à goûter une bière avec Pierre Guigui, qu'on reçoit de temps en temps ici.
Exactement.
N'attendez pas novembre pour rencontrer Tom. Et puis surtout, aller rencontrer Patrick Bruel, parce que parmi les gens que je connais, c'est fait partie des grands amateurs.
De 59 en plus. Quoi. Vous avez Didier Jobert dans votre liste de People, né en 1959. Quoi.
Non seulement là, mais en plus, on a la chance de l'avoir avec nous.
Il est là, c'est notre deuxième invité de 2017. Bonjour Didier.
Bonjour à tous.
Vous avez déjà dégusté un vin de 59 ou
absolument,
jamais alors?
Absolument, j'ai eu la chance d'être gâté à plusieurs reprises par des grands vins de 59. Ah, mais je ne savais pas qu'il était à ce point-là un millésime connu, abondant et qualitatif.
Exactement.
Alors Didier, donc... Vous êtes diplômé de Sciences Éco, doublé d'un diplôme de Centrale, et votre premier job, c'était chez IBM. C'était une belle aventure, Didier ?
C'était une belle aventure, surtout pour un ingénieur comme moi qui a découvert les ventes, l'école des ventes d'IBM, qui était à l'époque fameuse. Mmh. Et pour un ingénieur de l'époque, un vrai ingénieur comme je l'étais, ça a été vraiment une découverte.
Pour vous, c'était quoi un complément de formation, quelque part aussi ?
C'était un complément de formation, et puis une ouverture au monde des affaires, fondamentalement, et dans un monde qui, à l'époque, était en grande expansion, puisque c'était le début de l'informatisation massive, en particulier dans le domaine des banques et assurances.
Alors, en 2007, vous allez rejoindre Orange pour y passer 6 années. Vous serez notamment le patron des produits pour OBS. C'était une belle aventure, ça aussi ?
Ça, c'était une aventure formidable pour moi, puisque je rejoignais une boîte française avec la responsabilité de l'ensemble du portefeuille de produits pour toutes les entreprises en France, depuis les mobiles jusqu'aux activités de services de type cloud. Donc, c'était un portefeuille d'environ 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires à gérer, mais avec une orientation produit. Donc, comment développer les produits d'aujourd'hui et de demain pour Orange Business Services ? Dans le monde entier.
Dans le monde entier. Donc là, vous avez passé quand même... Aujourd'hui, vous voyagez un tiers du temps, mais c'était pire avant ou pas ?
Ça a été jusqu'à 50% de mon temps dans les phases de découverte, en particulier des filiales étrangères d'Orange, qui s'appelaient Econt, et qui était le grand pôle de développement du succès international d'Orange.
Vous avez rejoint Arcadin en 2013. Qui sont les actionnaires de l'entreprise ?
Alors, Arcadin, c'est une entreprise qui a 15 ans d'ancienneté, qui a été créée par Olivier de Puymorin. Donc c'est une entreprise française, qui est maintenant une entreprise dite de taille intermédiaire, une ETI. 260 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1300 personnes dans le monde. La France n'est que 15% de son chiffre d'affaires. Et concernant l'actionnariat, donc, la société a été rachetée pour une grande partie par le groupe NTT, qui est l'équivalent d'Orange au Japon, à 90%. Et le management représente 10% encore de l'actionnariat de l'entreprise.
Et les métiers, donc les différentes prestations, services et produits que vous proposez ?
Alors le métier, nous sommes spécialisés dans les services de communication et de collaboration dans le cloud. Donc c'est tous les services de audioconférence, vidéoconférence, webconferencing, et en gros tout ce qui concourt à assurer ce qu'on appelle le digital workplace, c'est-à-dire la façon de fonctionner d'un collaborateur moderne d'une entreprise qui travaille à distance, de chez lui, du bureau, dans la rue, de chez client, avec tous les outils pour pouvoir collaborer efficacement.
Et donc là, il y a une vraie évolution, quoi.
Vous voulez dire pour moi
Pas pour vous, mais également pour les collaborateurs.
Oui, oui. Donc voilà, je dirais que pour moi, ça a été une grande évolution de passer de très grandes entreprises comme IBM Orange à une entreprise de taille moyenne, très internationale cependant. Et la deuxième, c'est que c'est un changement profond dans la façon dont le collaborateur, dont la personne dans l'entreprise fonctionne, puisqu'elle acquiert une beaucoup plus grande liberté de fonctionnement en travaillant d'où elle veut. Assorti de toutes les nouvelles technologies, il peut travailler de chez lui. Ça change la façon de fonctionner. Ça change
la confiance aussi qu'on accorde aux gens.
Ça oblige à aller vers plus de confiance. Ça donne beaucoup plus de capacité à chaque personne d'être en interaction avec son univers, pas seulement à l'intérieur de l'entreprise, ça c'est aussi assez nouveau, c'est que tous ces outils de communication fonctionnent aussi avec les clients, les partenaires, et
l'ensemble. Jean-Luc Pfaff, au sein du Champagne Panier, vous pratiquez ce travail à distance, par exemple, pour synthétiser les choses, quoi.
Oui, bien sûr.
Et ça vous choque pas de pas voir tous les matins vos salariés pour vérifier qu'ils sont là, bien à l'heure, tout ça ?
Non, bon, on n'en est plus là, je crois que...
Vous êtes un vrai patron moderne, quoi.
Ça serait un bien mauvais management, ça.
Et ça représente combien de personnes qui travaillent pas forcément...
J'ai 80 personnes qui travaillent sur le site.
Oui.
Et sur les 80, je dois en avoir à peu près une quarantaine qui sont pas sur le site.
Ah, quand même, ouais. Didier Jobert, au niveau de la distribution, vous avez un réseau direct ou indirect pour la vente?
Donc nous, on a fait notre succès avec des ventes directes. Donc on a créé des filiales dans 33 pays, on a développé des ventes directes dans tous les pays pour démarrer, comme une start-up dans chacun de ces pays. Et depuis quelques années, on développe aussi des canaux indirects à environ 10% de notre chiffre d'affaires. Donc en particulier, les opérateurs de téléphonie dans le monde entier, qui n'ont pas la capacité à développer cette offre en propre et pour lesquels on devient leur offre marque blanche.
Marque blanche, quoi. Vous avez des ventes, on peut dire, presque contre-cycliques. Hein. Est-ce que c'est bénéfique ou pas quand vous avez un problème, c'est il y a quelques années, le fameux volcan en Islande ou plus récemment Donald Trump qui
Oui, était... alors, Alain, c'est quelquefois un peu embarrassant de parler de ça puisque ça oblige Arcadin à se réjouir d'un point de vue business et bien entendu pas à titre personnel.
Donald Trump, ça va. Enfin, ça va.
Oui, alors là, on va laisser les auditeurs juger. Mais ce qui est certain, c'est que si je prends le volcan en Islande, le fait de l'arrêt complet des transports, en particulier transport aérien pendant, je crois, pas loin d'un mois, avait généré le meilleur mois de collaboration, donc avec nos outils d'audio, web et vidéoconférence. Donc on était heureux chez Arcadin, mais évidemment, dans un environnement délicat. Alors peut-être plus amusant, effectivement, le Brexit et Donald Trump. On a une activité que je n'ai pas décrite qui s'appelle d'événements virtuels. Donc c'est la capacité d'un patron d'entreprise, d'un dirigeant, de parler à l'ensemble de ses collaborateurs, partenaires, d'un sujet donné, en général en urgence et à grande échelle. Pour faire ça, on a une activité spécifique pour aider ces dirigeants à le faire. Et alors, on a eu une pointe très forte d'activité ces derniers mois. Alors, l'actualité nous aide beaucoup. Entre le Brexit et Trump, ce sont les meilleurs mois depuis les 15 premières années d'Arcadin. Parce que les gens ont besoin de communiquer. Qu'est-ce qu'on fait?
Ça vous choque, David Cobbold, ça, ou vous dites c'est quand même, enfin, les outils de Didier sont juste formidables, quoi. Ça répond à un vrai besoin.
Non, moi, ça ne me choque pas. Je trouve que c'est simplement s'adapter à la vie moderne. Et il y a un autre avantage que je vois sur le plan écologique. Il y a moins de carburation.
Le bilan carbone est meilleur, quoi.
Ben oui, y a pas de, on ne brûle pas des fossiles. C'est plutôt mieux. Et quand on peut éviter de voyager, pourquoi voyager? Donc, Didier... Si on est aussi efficace à distance, eh ben restons là. Après, ça n'enlève pas la nécessité de temps en temps d'un contact humain.
Voilà. Et peut-être sur cette ligne-là, il y a aussi la réduction du niveau de fatigue des collaborateurs. Parce que les transports, c'est non seulement du CO2, mais c'est aussi fondamentalement le fait du stress, de passer du temps dans les avions et dans les transports.
Vous admettez?
Ah, moi, je suis tout à fait d'accord.
Vous êtes verte comme fille, vous, ou pas? Vous êtes verte ou pas?
Alors, verte ou verte?
Didier Jobert, les enjeux du digital pour une société comme Arcadin, ça représente quoi?
Bah pour nous, on n'est que digital, on n'est que cloud, donc pour nous, c'est la vie même de l'entreprise. Donc on est sans arrêt en veille de toutes les nouvelles technologies qui pourraient permettre d'encore améliorer la façon de collaborer à distance. Donc avec plus de mobiles, on est aidé par les réseaux mobiles, avec plus d'outils que vous entendrez parler en Californie, les Skype for Business, les Slack, toutes ces technologies, nous on les développe pas, on les intègre et on les met à disposition de nos clients avec un bon niveau de support. Donc on est dans un monde qui s'ouvre, je crois que quand on regardera l'histoire dans 5 ans, les outils auront encore fondamentalement progressé.
Vous êtes au début, quoi, en fait.
Je pense qu'on est vraiment au début. Si je me ramène à mon début de carrière chez IBM, on travaillait avec peu de choses. Hein. On était obligé de voyager, on était obligé d'utiliser des outils très rustiques, essentiellement
le téléphone. Et puis nous, on avait Radiocom 2000 là, qui pesait 800
kilos.
Voilà,
c'était encore même d'ailleurs plus récent. Donc aujourd'hui, on est déjà à un niveau de confort qui est bien supérieur. Et c'est tout à fait, nous, notre optique, c'est de rendre le truc le plus simple possible. Ce qu'on dit en général, c'est que c'est aussi simple qu'un appel téléphonique. Ça doit être fondamentalement un clic pour pouvoir se mettre en communication avec la meilleure formule possible.
Didier Jobert, je sais que vous écoutez chaque week-end Invino à Paris sur BFM Business 96.4. Vous, côté vin, vous êtes plutôt rouge et plutôt Vallée-du-Rhône.
Voilà, alors moi je suis plutôt rouge, effectivement, Vallée-du-Rhône, parce que mon père est ardéchois, donc ça doit être des attaches sentimentales.
Ben oui, c'est génétique, quoi.
Donc très ermitage, mais aussi un peu Saint-Joseph, qui est plus proche de la région de mes grands-parents.
Et parmi les balades ou les visites, vous avez visité le château Pape Clément, là on est plutôt à Bordeaux, ou voilà. Le Clos Vougeot, plutôt à Bourgogne, quoi.
Voilà, alors ça pour moi c'est des grands noms, évidemment, et c'est des visites toujours émouvantes, parce que beaucoup de traditions. Clos Vougeot en particulier, moi ça m'avait beaucoup ému en hiver, la découverte de Clos Vougeot, on n'était pas nombreux ce jour-là. Voilà, il y a un peu d'émotion.
Moment, quoi. C'est beau.
C'est juste beau.
Vous n'avez pas eu froid, non? Parce que
si,
le Clos-Vougeot, les pierres sont froides en hiver. Puis, c'est beau et austère.
C'est exactement
c'est,
ça.
C'est monastique.
Voilà. C'était quasi monacal.
On se recueille.
C'est vrai.
On se recueille.
C'est ce que j'ai ressenti.
Et la Vouge, qui est le petit ruisseau qui court, qui a donné le nom à Vougeot, hein, c'est le nom de ce ruisseau, en hiver peut être même gelé. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où ça fait vraiment frais.
David Cobbold, et pour rester dans la religion, le pape Clément, il a vraiment existé?
Oui, c'était Clément V. Clément V, qui était propriétaire à Bordeaux et qui a laissé son nom à ce château qui appartient aujourd'hui à Bernard Magret.
Vous êtes plutôt quoi, Didier? Cognac, Armagnac ou tisane?
Oui, alors j'ai un peu honte de le dire, Alain, je suis tisane.
Mais c'est parfait, ça. Donc, vous voyagez, vous le rappeliez, donc un tiers de votre temps, ce qui est beaucoup. Vous avez déjà dégusté les vins internationaux, ou jamais?
Oui, alors moi, j'ai ma philosophie, c'est quand je vais à un endroit, j'essaie d'être le plus possible local. Donc, je vais dans les restaurants locaux, je déguste les vins locaux, même si j'essaie aussi de leur faire déguster parfois, de faire des dégustations comparées. Et donc, comme j'ai la chance d'aller en Australie, en Afrique du Sud, là, je suis fidèle au Shiraz, donc qui est assez proche, même s'il est un peu différent des vins de la vallée du Rhône.
On peut faire un parallèle entre Arcadin et le vin, Didier, pour terminer ou pas?
Alors, l'image que j'aime bien, Alain, c'est finalement nos technologies peuvent apparaître un peu froides, puisque finalement, elles permettent de travailler sans se voir.
Sans se toucher.
Donc, l'idée qui a été développée, c'est d'avoir des dégustations, en particulier de vin, à distance, avec des technologies de vidéo. Alors, ce n'est pas encore parfait, mais franchement, la qualité de la vidéo est telle qu'aujourd'hui, on peut mener une dégustation en faisant livrer les bons vins au bon endroit, en bénéficiant d'experts comme ceux qui sont avec nous aujourd'hui, et d'avoir une vraie dégustation, un vrai moment de convivialité à distance avec des technologies de vidéo. Donc, pour moi, l'Arcadin
de demain,
et le vin,
de demain,
ouais. C'est pas mal, finalement.
Vous aimez le champagne, Didier, ou pas?
J'aime bien.
Bon, ça tombe bien parce qu'on va en parler maintenant du champagne Panier. Merci beaucoup en tout cas Didier Jobert et bon vent pour vos entreprises.
Merci Alain.
Arcadin, Dino BFM, a le plaisir de retrouver maintenant un nouvel invité, Jean-Noël Pfaff, qui est le patron de ce champagne Panier. Bonjour Jean-Noël.
Oui, bonjour.
Alors vous quand même au niveau formation, hein, une école de commerce lycéenne, un diplôme de transport et l'œnologie, c'est assez varié quand même. Hein.
Ouais, mais j'ai repris un cycle d'œnologie quand je suis rentré dans le milieu du vin. Parce que j'avais des chefs de cave, des œnologues, etc., qui sont des gens éminemment sympathiques, mais qui sont une espèce de caste qui fonctionne un peu entre eux. Et puis, comme j'étais patron de
quelques
la maison...
Quelques noms un peu de grands gourous.
Non, et comme j'ai envie de comprendre, je suis reparti à la fac à Dijon pour faire un cursus d'œnologie en un an raccourci, et ça m'a bien aidé, et j'en suis fort content.
Alors, vous avez rejoint la Champagne en 2007. Alors, un mot sur la réalité économique et production de cette union de vignerons, Covama.
J'ai une coopérative qui fait à peu près 700 hectares d'approvisionnement un peu partout en Champagne. C'est une assez grosse unité. En Champagne, c'est important parce que là, c'est un vin d'assemblage. Et le vin d'assemblage, ça nécessite d'avoir des ressources de ce qu'on appelle des vins clairs dans différentes communes, différents secteurs, différents cépages. Et derrière, on a une marque qui s'appelle Champagne Panier, qui a une production d'à peu près 600-700 000 bouteilles par...
D'accord.
Par
mais il a vraiment existé, ce monsieur Panier, ou pas?
Oui, bien sûr, il a existé. Il a créé sa maison de Champagne en 1899. Alors, pas à Château-Thierry, là où on est implanté aujourd'hui, mais à Dizy, donc plutôt Côte des Blancs. Et puis un jour, il a trouvé des magnifiques carrières en 1947, qui étaient des carrières d'extraction de pierre à Château-Thierry, qui ont servi à construire Château-Thierry depuis le 12e, 13e siècle. Et il s'est dit, c'est une magnifique cave de champagne.
Hop, j'achète.
J'achète et je transforme ça en cave de champagne. Ce sont toujours les mêmes caves aujourd'hui.
Et aujourd'hui, c'est assez magique, hein, David Cobol. D'abord, c'est proche de Paris. Voilà.
C'est des caves superbes qui n'ont pas l'apparence des caves traditionnelles qu'on connaît à Reims, Lacraie. C'est des caves dont le toit est carré et plat, parce qu'on est dans la pierre, on n'est pas dans la craie, et ce sont des caves vraiment splendides.
Au total, donc, vous êtes à combien de 18 mètres sous terre?
Je suis à 18 mètres sous terre, 2 km de galerie à peu près.
Quand même, quoi. Et alors ça, vous accueillez chaque année plus de 10 000 personnes.
Oui.
C'est un petit Mont Saint-Michel inversé, quoi.
Oui, c'est un petit Mont Saint-Michel, oui, sans la mer, sans... Enfin bon, il y a quelque chose en moi. Mais oui, on n'a que 10 000 visiteurs en tourisme. Alors le tourisme en Champagne, ça commence à être très fortement d'actualité depuis qu'on est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Ça a vraiment bougé les choses, ça a amené une autre vision d'autres personnes peut-être?
Oui, ça a amené une autre vision, parce qu'il faut bien dire qu'en Champagne, en dehors de quelques très grosses maisons, la démarche de nos tourismes n'était pas extrêmement implantée, contrairement à d'autres régions comme l'Alsace, etc., qui ne sont pas classées. Mais
qui ont une très belle tradition.
Et maintenant la Bourgogne ou ça?
Et maintenant la Bourgogne également. Sauf que donc, chez Panier, on a commencé ça en 2000. De façon un peu sérieuse, à faire des locaux, des parcours de visite, différents niveaux de dégustation, etc.
Vous avez été assez pionnier dans ce domaine.
Et en 15 ans, on arrive effectivement à 10 000 visiteurs par an, qui sont beaucoup d'étrangers.
Oui, beaucoup d'étrangers. Ils viennent d'où en général? De quel pays? Alors, vous n'avez pas des Anglais quand même?
Si, on a des Anglais. Non, on a toute nationalité parce qu'on est proche de Paris. Ouais. On le disait tout à l'heure, c'est 50 minutes en train de la gare de l'Est et c'est 1h15 depuis le Triangle d'Or jusqu'à Château-Thierry. On se met en voiture quand ça roule bien. Et donc, ce sont beaucoup de touristes aussi qui sont en séjour sur Paris et qu'on capte parce que c'est la première maison de champagne avec des vrais caves historiques, etc., qui est à proximité.
Et puis, avec du bon champagne quand même. Suzanne Mété, vous connaissez le champagne Panier?
Je connais, je l'ai dégusté, mais j'y suis jamais encore.
Oh là 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 là.
On va l'inviter.
Jean-Noël, il faut y aller du boulot encore.
Il y a du boulot.
Et vous accueillez, BFM Business, on parle de sous, d'argent, de séminaires aussi, 200 séminaires par an.
Ben oui, puisqu'on est proche de Paris, il y a un autre public qui est intéressant, c'est l'entreprise qui a envie d'aller réunir ses cadres.
Si Arcadin, par exemple, veut venir monter un petit séminaire, par exemple.
Sans souti, il y a un amphithéâtre de 300 places.
Le cloud souterrain.
On peut faire du cloud souterrain, on fait de la restauration sur place, etc. Donc on s'est structuré depuis les années 2000 et on accueille 200 séminaires par an.
Ça fonctionne bien, de toute façon, quand on voit du Jean Papanier, on a toujours l'impression d'être sur un petit nuage.
Oh, mais c'est mignon. Merci, ça. Merci. Alors, au niveau de la vente sur place, donc tous ces gens qui viennent, les 10 000 par an, ils repartent avec une petite bouteille ou une grande bouteille ou plusieurs bouteilles?
Ah, ils partent, on espère, avec plusieurs bouteilles, ou une très grande, ou une très très grande. Non, mais ils repartent à peu près avec pas loin de 45 000 bouteilles qui sont achetées sur le site. Oui. Donc c'est une grosse activité. Et puis avec beaucoup de conseils du personnel de contact, la dégustation auparavant. Donc c'est un contact très qualitatif.
Au fait, vous l'avez bloqué dans la cave jusqu'à ce qu'ils achètent.
C'est ça même.
La carte bleue, la visa. Dans la gamme panier, donc on a notamment la gamme velours, qui est quand même un peu vos stars, j'allais dire.
Oui, c'est un peu atypique. On a conçu la gamme autour d'un moment de consommation. Un rosé velours qui est plutôt en fin de repas ou sur un dessert à base de fruits rouges, un blanc velours qui est par contre à l'apéritif, qui est un faux blanc de blanc parce qu'il y a un peu de raisin noir à l'intérieur, et puis le dernier qui est un rubis velours parce que j'adore la viande rouge, du genre la côte de bœuf saignante avec la béarnaise, enfin quelque chose de sauvage, on a tous faim. Et en champagne, c'est vrai qu'on a du mal à associer à ce moment du repas une cuvée, donc j'ai travaillé avec mon chef de cave et on a fait rubis velours qui est vraiment apte à supporter une côte de bœuf saignante avec une béarnaise.
Donc c'est un champagne tannique alors.
Alors on cherche beaucoup de vin, beaucoup de structures de vin, on est assez coloré dans l'assemblage, un fort taux de vin rouge et un petit tanin pour finir, de toute façon à ce qu'on supporte encore une fois le gras de la béarnaise, le côté sauvage de la viande sur un gibier.
Et le sel.
Très bien.
Le plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en ce début d'année, Jean-Noël?
On peut souhaiter que la champagne aille bien, qu'on fasse des belles vendanges 2017.
Pour l'instant, la vigne, elle dort, elle fait dodo là.
Oui, mais elle a besoin et c'est extrêmement important qu'elle dorme, qu'il y ait du froid, que toutes les petites bêtes qui sont dans les bois meurent, ne nous embêtent pas trop au printemps, etc. et que la vigne se repose.
Merci beaucoup, Jean-Luc Pfaff, le dynamique patron du Champagne Panier. Vous aimez le Jurançon ou pas?
Oui, j'aime bien.
Bah, ça tombe bien.
On sait qu'on en doute d'ailleurs.
On en parle exactement avec Philippe Forbach, notre meilleur sommelier du monde à nous. C'est où, dans quelle région le Jurançon, Philippe?
Écoutez, on est dans le sud-ouest, exactement, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et c'est une appellation qui couvre à peu près 1000 hectares, répartie sur 25 communes autour de Jurançon et Monin. Et d'ailleurs, on l'appelait précédemment le vin de Monin. Il s'appelle Jurançon maintenant. Mais on a raconté l'histoire il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a reçu Philippe Raoult il y a quelques semaines.
Le président du Conseil supérieur.
Il nous expliquait qu'il y avait un pont qui avait été construit et que sur ce pont, ce nouveau pont, il fallait payer une rançon pour passer le pont et qu'on le payait sous forme de liquide.
Ça s'appelle un impôt. Hein.
Effectivement, c'est cet impôt, c'était le jus de la rançon, d'où le jus rançon, c'est de là dont viendrait le nom. Et donc c'est une appellation que j'aime beaucoup parce que ça donne à la fois des vins effectivement secs, j'allais dire presque finalement, parce que le plus célèbre, c'est le moelleux, voire le vin issu de raisins passerillés, élaboré à partir d'un cépage qui s'appelle le petit Mansingue, même si ce n'est pas le seul, puisqu'on y trouve également du gros Mansingue, il y a même du courbu, du camarelé ou du lozé, qui ne sont pas franchement les cépages les plus connus.
Oui, ni très peuvent... sexy quand on les prononce. Hein.
Oui, mais ils apportent pourtant une pointe d'arôme un petit peu épicé, sûrement peut-être une possibilité de conservation supérieure, donc ils sont intéressants dans
y a,
la...
Il n'y a pas dans un la, peu de la ruffiac.
Ça arrive, mais...
J'aime bien la ruffiac.
C'est un joli... Mais on trouve plus de la ruffiac sur Pacherenc, finalement, que sur Jurançon, qui est un voisin, le Pacherenc.
La grande famille.
Exactement, le Pacherenc qui est effectivement du côté de Madiran, pour le coup. Donc, on trouve, je le disais tout à l'heure, donc essentiellement des vins moelleux dans l'histoire. D'ailleurs, l'appellation contrôlée, qui date de 1936, a d'abord célébré les Jurançons moelleux. Et quand on a sur l'étiquette que Jurançon, c'est du moelleux, automatiquement. Sucre résiduel, situé entre 60 et 90 grammes à peu près de sucre résiduel. Donc ne soyez pas surpris si vous ouvrez cette bouteille-là et qu'il y a du sucre, c'est normal. Si vous voulez un vin sec, frais, pétillant, enfin pas pétillant d'ailleurs, mais frais, mais désaltérant, avec une certaine acidité, et il en a, parce que le cépage Mansingue a juste une très belle acidité, un peu à l'instar du Chenin, eh bien vérifiez que sur l'étiquette c'est marqué Jurançon sec. Et c'est une appellation qui n'a été reconnue qu'à partir de 1975. Ce qui est relativement plus récent dans l'histoire. Notamment ce début d'année, si vous voulez goûter quelques huîtres, c'est la belle saison, effectivement, faites-vous plaisir et prenez plutôt du Jurançon sec. Alors ce sont des vins qui sont des vrais vins de gastronomie, et pas juste pour le foie gras ou les pâtes persillées. C'est les moelleux notamment, grâce notamment à leur dimension acidulée, permet des accords extrêmement intéressants sur des volailles, voire sur l'un des plats fétiches en France, vous savez sûrement tous, c'est le fameux magret de canard.
Ah oui.
Alors il faut soutenir la filière
vous aimez Didier, Jean-Bert, le magret de canard ou pas?
Ah oui, moi je suis un grand amateur.
Et vous, Jean-Noël?
Le
magret de canard.
Le magret de canard.
Oui, un peu gras, mais oui.
Un peu gras. Okay. On peut le dégraisser légèrement.
On peut le dégraisser.
Ça dépend de la cuisson. Voilà. Inventé par André Degas, faut le rappeler.
Exactement. Et vous savez la différence qu'il y a entre le magret et le filet de canard? Parce que des fois, on peut confondre les deux.
Deux Degas.
Non, c'est que le magret de canard est issu de canards gavés pour faire du foie gras.
Et oui. D'accord.
Ça, c'est le magret. Et le filet de canard, c'est des canards sauvages. Les canards, les cols verts ou autres, en tout cas, qui sont sauvages.
Les choses qu'on tire au-dessus des étangs.
Par exemple. Sinon, c'est la même partie de la bête. C'est toujours la partie bombée du fameux filet. Donc, le magret de canard, par exemple, préparé avec une sauce à l'orange, une petite gastrique, etc., sur un moelleux de jurançon, c'est juste quelque chose de magnifique. Vous pouvez aller même pour les fêtes de Noël. J'ai goûté, par exemple, un crustacé, pareil, avec un peu d'agrumes juste râpés, comme on fait un peu tendance aujourd'hui, avec un verre de jurançon, même moelleux. Ça marche très bien. Et si vous voulez vous faire plaisir avec un risotto de truffes, c'est la saison, là, en janvier, c'est les truffes qui arrivent, n'hésitez pas, si vous avez une vieille bouteille de jurançon,
chaque émission prend 7 kilos.
Finalement, il est un peu vieux, ce jurançon, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce qu'il est encore bon? Eh bien, la truffe, d'une façon générale, parce qu'on retrouve ces arômes de truffes, et notamment
magnifique,
de truffes blanches, effectivement, dans les vues jurançon.
Mais c'est pas plutôt des côtes rôties,
ou secs. Alors, si vous prenez de la truffe noire, le côte rôti peut être très intéressant. Si c'est des truffes blanches, ou globalement, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous allez même avec la truffe noire. Surtout si c'est sur du risotto. Si c'est une viande avec, effectivement, des truffes noires, le côte rôti va être extrêmement bienvenu. Alors, il y a un autre élément qui est très intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est finalement l'accessibilité en prix des vins de Jurançon par rapport à plein de vins qui ont pourtant une notoriété équivalente. Jurançon reste, alors c'est un peu dommage peut-être pour les producteurs de Jurançon, mais on peut avoir des Jurançons secs à partir d'une dizaine d'euros et des moelleux un petit peu plus chers, mais à part quelques cuvées particulières de quelques producteurs vedettes qui font des vendanges extrêmement tardives en petite quantité, souvent vendues en demi-bouteille qui peuvent atteindre plusieurs dizaines d'euros. Si donc globalement, allez, entre 10 et 20 euros, on a
presque bonheur,
tout ce qu'on veut et vraiment des jolis vins.
Quelques vignerons peut-être, Philippe?
Quelques vignerons. Bon, on a cité le château Lafitte il n'y a pas très longtemps, mais le domaine de Souche, par exemple, de Madame Goberu, le fameux COAP d'Henri Ramonteux, le domaine Bordenave, Brubaché, le cru Urola, le domaine Jolis, par exemple, sont des domaines qui travaillent bien. On trouve encore pas mal de vieux millésimes disponibles dans la plupart des propriétés. Oui. Ça, c'est intéressant aussi. Peut-être que si vous grattez un peu, et si Didier Jobert demande du 59, il peut peut-être même en trouver encore.
Ah, ça tient toujours.
Donc, bien sûr.
C'est une très bonne
capacité
année,
de garde. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça se garde bien en moelleux, et on peut bien l'imaginer, parce que la sucrosité et l'acidité dont je vais parler sont des éléments qui factorisent la garde, mais même les secs peuvent être considérés comme des vins qui ont un très intéressant au bout d'une... presque une dizaine d'années sans aucun problème. Et on peut aller sur des poissons fumés ou sur des petites préparations du sud-ouest merveilleuses à base notamment de poissons. Je pense, alors on n'en mange pas tout le temps, hein, mais vous prenez une petite poêlée de pibale, quelques petits grains de poivre dont on a le secret, même du piment d'Espelette, et puis vous prenez un verre de Jurançon sec qui a déjà 3-4 ans d'âge pour avoir une concentration, c'est très bien. Les parfums sont souvent marqués pour le moelleux sur le confit. Hein, on a des arômes d'épices également, un peu de miel, un peu de cire lorsque ça prend de l'âge. Les secs ont au contraire un côté très aromatique, très floral, extrêmement agréable. On est plutôt
sur découvrir,
la fleur d'oranger, des choses comme ça.
Rassurez-moi, il n'y a que du blanc en Jurançon.
On n'y fait que du blanc.
Bon.
Voilà, avec le sec plutôt avec ce qu'on appelle le gros mansingue. Et le moelleux avec le petit Mansinque, le même cépage.
Température de service pour terminer, Philippe?
Alors, pour les secs, intéressants autour d'une dizaine de degrés. Et pour les moelleux, s'ils sont jeunes, on peut les rafraîchir un peu, 8-9 par exemple, c'est-à-dire pas très loin finalement de la température de dégustation du sec. Par contre, s'ils prennent de l'âge, il ne faut pas hésiter à les boire plus tempérés, entre 12 et 14 degrés, ils ont mangé leur sucre et là ils sont juste, ils s'offrent avec bonheur.
Merci beaucoup Philippe Aubrac, nous marquons une courte pause, ensuite retour au restaurant Baravin Nicolas Paris, 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée, avec les 10 ans de Serre Grand Cru et parler du vin avec ou sans sulfite.
Invino BFM, Alain Marty sur BFM Business.
Retour au restaurant Bar à Vin Nicolas. Nous sommes à Paris, 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec la journaliste formidable Suzanne Mété. Bonjour Suzanne.
Bonjour Alain.
Alors qu'est-ce qui célèbre 10 ans pour CA Grand Cru? Qu'est-ce que c'est que CA Grand Cru?
Mais alors CA Grand Cru, c'est Crédit Agricole Grand Cru. Alors je vous ai un petit peu leurré parce que c'est pas vraiment les 10 ans, c'est 10 millésimes qu'ils ont fêté récemment. Donc officiellement, CA Grand Cru, ça a été créé en 2004 par donc Crédit Agricole. C'est une filiale à 100%, comme moi-même, je suis avec une édition de filiale à 100%. Donc, c'est un peu les cousins, un peu mes cousins. Donc, ils ont racheté en 2004 Grand Puy du Casse, Château-Méné, Blaignan et aussi Rennes-Vignon en Sauterne, qu'ils ont cédé depuis, malheureusement, mais c'est la vie, hein. Puis aujourd'hui, donc, on a plus de 300 hectares de vignes sur CA Grand Cru. Donc, évidemment, Grand Puy du Casse, qui est un Pauillac, un Grand Cru classé, avec 40 hectares répartis sur trois parcelles, et dont la parcelle nord qui jouxte Mouton, Lafitte et Pontécanet. Donc, c'est pas si mal. Un beau vignoble avec 30 ans d'âge en moyenne et puis un encépagement plutôt Cabernet Sauvignon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le second vin, c'est le Prélude. Alors, la pépite de CA Grand Cru, c'est quand même Château-Méné, qui est à Saint-Estèphe. 51 hectares d'un seul tenant. Une des plus anciennes propriétés du Médoc qui s'étend sur de belles croupes dominant la Gironde. Donc, ils partagent cette belle croupe argileuse et la très belle vue aussi avec Montrose d'un côté et Calon-Ségur de l'autre. Donc, des voisins sympas. Alors, c'est un très, très beau terroir qui a connu quand même une très belle progression depuis 5 ans. Il y a un chef de cave qui est sur place depuis 25 ans, Monsieur Rateau, avec... Oui, monsieur.
Monsieur Cobol.
Je voulais donner un avis personnel. Méné, pour moi, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix du Médoc aujourd'hui.
Ah, quand même.
Ah oui,
beau
oui.
Compliment,
non, vraiment.
Beau compliment.
Et donc, un encépagement plutôt Cabernet Sauvignon à 60%, Merlot, et le petit 10% de Verdot qui donne une belle structure au vin. Après, on a le château La Tour de Mons, qui est un cru bourgeois de Margaux, 48 hectares d'un seul tenant, situé dans le nord de l'appellation. Alors, ils avaient une participation seulement et depuis la vente de Rennes-Vigneault, ben, ils ont 100% maintenant ils ont racheté les parts à la Caisse des dépôts et consignations du Québec. Donc, ils sont chez eux. Après, on a Blaignan qui a 97 hectares dans le nord Médoc. Une belle propriété quand même, mais qui est quand même... On est plutôt sur des vins, des valeurs sûres, mais c'est pas...
Accessible.
Accessible. Voilà, merci David de ton aide. Ensuite, on a Clos Saint-Vincent, Saint-Émilion, 17 hectares. Puis finalement, Château Centenay, qui a une très belle propriété à Centenay.
Et en Bourgogne.
En Bourgogne, avec le très beau château.
C'est un bon rapport que tu as pris, ça aussi, Suzanne.
Oui, hein, très bon.
Tout à l'heure, vous parliez de David Metteur en exergue,
oui.
Château Méné, mais les santé en général, David ou Philippe,
oui. C'est relativement accessible pour les vins, ouais, de la Côte d'Or.
Pour les Bourgognes, oui. Justement, encore.
Bon, alors, je voulais aussi vous parler de l'équipe.
L'équipe, bien sûr.
Parce qu'en fait, c'est Thierry Budin qui est à la tête, qui est directeur général depuis 2006.
Un garçon formidable, qu'on salue.
Bon. Et donc, Thierry Budin, après le décès de Bernard Monteau, qui était le directeur technique de Grand Puy du Casse, et en 2009, puis l'année suivante de Jean-Michel Michaud, a mis une nouvelle équipe en place. Et je suis assez fière parce qu'il s'est entouré d'une équipe très féminine. Il a appliqué complètement la parité. Donc, la relève a été assurée avec Anne Lenaour, qui a été nommée directrice technique des propriétés en 2010. Et là, récemment, on a eu l'annonce qu'elle était nommée directrice générale adjointe aussi. Donc,
c'est super, ça.
Oui. Alors, c'est une femme extra. Qui est ingénieur agro, diplômé de l'Université de Toulouse et qui était passé avant d'arriver dans le groupe chez Bernard Magret.
Belle référence aussi.
Ouais. Donc, une maître de chai aussi a été nommée à Grand Puy du Casse à l'époque, Cécile Bernier. Puis un chef de culture, par contre, c'était un jeune homme, Benjamin Cassoulet. Alors, on a aussi une chef de culture, une maître de chai à la Tour de Mons, Sarah de Bonde.
On ne dit pas maîtresse de chai ?
Non, pas maîtresse, on va dire maître de chai pour l'instant. Et puis, depuis 2013, ils se sont... ils ont demandé à Hubert de boire de les aider.
Bon, il y a une super équipe. Hein. C'est la dream team du vin, ça.
Donc, c'est une belle dream team.
Une verticale sur 10 ans, c'est possible
ou
pas ?
Ben voilà.
Y a Vous y étiez ?
J'y étais et je n'étais pas seule. Il y avait même David qui était là. Donc, c'était un beau moment, David.
Oui. Non, mais j'ai un coup de cœur pour Méné 2006, qui est tout simplement merveilleux aujourd'hui.
Ah, actuellement, quoi.
Oui, oui.
Merci. Et donc, vous avez dégusté 10 millésimes différents ?
10 millésimes sur Méné, Grand Puy du Casse et la Tour de Mons.
Et votre chouchou, Suzanne, c'était lequel ?
Eh bien, les Tours de Mons 2010, Grand Puy du Casse 2002.
Et David Méné 2006, quoi.
Oui, ouais. Et Méné 2005 aussi, qui était quand même un beau... qui était vraiment une belle référence.
Belle référence. Merci beaucoup, Suzanne Mété. Vous restez bien sûr avec nous. Hein. On a reçu beaucoup de mails à propos des sulfites. Est-ce qu'il faut en mettre dans le vin ? Est-ce que c'est bon ? C'est pas bon ? On va en parler un petit peu. Philippe Fourbray, les sulfites, c'est bon ou c'est pas bon pour le vin, alors ?
D'abord, qu'est-ce que c'est ?
Exactement.
J'aimerais commencer à dire que c'est presque pas un mal, mais en tout cas, c'est une nécessité. Pour l'instant, il n'y a rien qui vient remplacer les sulfites. Les sulfites, c'est quoi ? C'est des molécules qui permettent, enfin c'est du dioxyde de soufre au départ, et qui est utilisé pour deux raisons. La première, c'est pour protéger le vin de son oxydation. Et le deuxième, pour assainir finalement la boisson elle-même. Ça stoppe l'action des levures notamment, et des bactéries. Donc
au départ, c'est pas mal.
Ça stabilise le vin.
Comment c'est un bactéricide et un antioxydant.
Donc il y a les deux effets, d'accord ? C'est né au XVIe siècle. Ce sont les Hollandais qui ont par hasard un peu trouvé cette technique-là.
C'est pas les Anglais pour une fois.
Mais non, je pense que c'est plutôt les Allemands. Et ensuite, ça a migré vers le Hollande, vers le Rhin.
Les Anglais sont pour rien dans cette histoire.
Non, pour une fois, les Anglais ne sont strictement pour rien. Et les Hollandais l'ont amené à Bordeaux.
Mais c'est présent aussi naturellement
bien sûr.
Dans le sol.
Voilà.
Et dans
0,5% de la croûte terrestre est faite de soufre.
Donc
c'est un produit naturel.
Exactement, ce que je veux dire, c'est un produit naturel. Utilisé donc à bon escient, c'est un excellent conservateur, entre guillemets, pour le vin par rapport aux qualités qu'on lui trouve. Dans les années 70, notamment les Américains, ont fait des analyses sur les vins, etc., et ont décrété qu'il peut y avoir, non pas nécessairement des problèmes graves, mais en tout cas des intolérances. Plus que des allergies, des intolérances avec le soufre. Et c'est la raison pour laquelle sont nées les mentions obligatoires qu'on trouve aujourd'hui presque dans toutes surtout les vins du monde, et pas que les vins d'ailleurs, mais pas mal de boissons, contiennent des sulfites pour prévenir les gens de se dire attention.
Voilà.
Alors les doses de soufre ont été variables. D'abord au début, on mettait, quand les Hollandais ou les Allemands, et même les Anglais, etc., avec ce qu'ils importaient là-bas sur les quais de la Tamise.
Il y avait beaucoup de soufre et un peu de vin. Quoi.
Voilà, on prenait des garanties qui étaient un peu absolues, quoi, je veux dire, on ne savait pas trop. Bon, petit à petit, les doses ont été maîtrisées. Et il existe aujourd'hui des normes extrêmement précises, avec des maxima autorisés, et qui sont variables en fonction des types de vins. Par exemple, pour les vins rouges, on est par exemple sur une base 100. Pour les vins blancs, il en faut davantage, parce qu'il y a moins d'autoprotection. Pour les vins blancs secs, et sur les vins blancs moelleux, il en faut encore davantage, parce que le sucre résiduel, notamment, fait qu'il risque d'avoir une instabilité, notamment bactérienne, et d'avoir des redémarrages de fermentation. Pour le champagne, on a la chance d'avoir avec nous encore...
Jean-Noël Pfaff, le patron du champagne panier.
Jean-Noël, avec nous. Et pour le champagne, le gaz carbonique, par exemple, pour les vins effervescents de façon générale, protège. Bien, parce que l'action du gaz carbonique est autoprotectrice également. Non, pour le champagne, il y a beaucoup moins.
Bon, donc c'est formidable, le sulfite, alors.
Il y a encore moins, d'ailleurs. Hein.
Non, alors ça c'est l'aspect technique et positif.
D'accord.
Ensuite, il y a effectivement cette fameuse intolérance dont on parle.
Alors Philippe, c'est bien de rajouter, peut-être, parce que vous êtes partie prenante dans cette affaire-là, que le protocole des vins biologiques, les vins organiques ou bio, impose la moitié de ces plafonds en dosage de soufre.
Donc ils disent par deux par rapport à ce dont parlait Philippe.
Qu'est-ce qui permet ça aujourd'hui, finalement ? C'est les conditions d'élaboration, l'hygiène dans les caves
qui font qu'effectivement, les conditions de mise en bouteille, etc., dans une verre plutôt stérile et autres, qui font qu'on est moins obligé aujourd'hui de prendre cette précaution-là. Donc, on peut diminuer effectivement fortement les doses.
Jean-Noël, votre avis en tant que patron de maison de champagne ?
Oui, alors, je partage complètement l'analyse. Hein. C'est une protection du vin contre l'oxydation. En champagne, il y a une technique qui est utilisée de plus en plus, qui s'appelle le jetting. Hein, c'est-à-dire au niveau du dégorgement, on injecte...
Le dégorgement, vous nous rappelez ce que c'est?
Alors, le dégorgement, c'est la bouteille a vieilli 3 ans, 4 ans, on l'a remuée, on a enlevé le dépôt, et donc on a perdu un petit peu de liquide au niveau de l'évacuation du dépôt, et on redose avec une liqueur de vin et plus ou moins de sucre pour faire un sec, un demi-sec ou un brut. Hein. Et on utilise une technique qui s'appelle le jetting, en champagne aujourd'hui, où on injecte au moment du dégorgement une goutte d'eau et de SO2, donc hein, de sulfite, de façon à faire mousser légèrement le vin, on bouche immédiatement et on a expulsé par ce fait-là l'oxygène qui est compris dans le haut de la bouteille. Et avec cette technique-là, moi ça fait maintenant 5 ans que j'ai l'équipement, on a réussi à baisser de 30% les doses de SO2 nécessaires pour arriver exactement à la même protection et avoir sur les vins moins d'oxydation également à la dégustation.
Et quel est le dosage de soufre actuellement en moyenne sur les bouteilles? Parce que c'est très très faible.
C'est très très faible. Ouais. Sur un champagne, encore une fois, Philippe le disait, parce que le CO2, donc la bulle, c'est protège. Du gaz carbonique, le gaz carbonique est un acide et protège.
Alors qu'est-ce qu'on risque lorsque effectivement, les doses de soufre peuvent être dans un niveau d'intolérance qui vraiment peut correspondre à chacun d'une façon différente? D'accord. Ça dépend toujours de. On parle de métabolisme, c'est assez vrai, quoi, je veux dire. Il y a trois éléments principaux. Si on, la migraine, effectivement, le mal de tête. C'est pas lié qu'à ça, mais ça peut influencer. Le deuxième élément, ce sont des rougeurs cutanées.
Ah, carrément, quoi. Ouais.
Et le troisième élément, c'est les gens qui sont asthmatiques, par exemple, pour lesquels il peut y avoir effectivement des sensations un peu d'étouffement.
D'accord.
Parce que en dose importante.
Ça proviendrait donc uniquement des
sulfites. Voilà, mais ça vient. C'est les doses dans les vins ne jouent quasiment pas là-dessus. Mais si jamais quelqu'un avait ces problèmes-là, ouais, ça peut venir effectivement de doses de sulfites importantes.
David Cabol, on réagit parce que. Donc voilà, donc ça veut dire qu'avec modération, ça passe hein, pour qu'est-ce que s'acharner. Alors, moins de sulfite, on est tous d'accord, c'est mieux. Voilà. Mm-hmm. Maintenant, il faut quand même qu'il finisse, le vin soit bon.
Alors, il faut que le vin soit bon, il faut qu'il soit stable dans le temps et aussi dans les conditions différentes de stockage et de transport. Parce qu'un des risques, si on ne sulfite pas du tout, c'est qu'il y a des variations de température qui peuvent faire altérer le vin assez rapidement. Donc on recommande, quelqu'un qui fera un vin, et pas mal de gens font des vins sans sulfite, c'est un parti pris, mais c'est un parti pris qui comporte quelques risques. Si vous ne le stockez pas à moins de 14 degrés Celsius en permanence, c'est-à-dire transport et stockage jusqu'au moment de la consommation, il y a des risques que ça part en vrille.
Et vrille, c'est-à-dire quoi pour du blanc et du rouge?
Ça veut dire que vous pouvez avoir de l'oxydation, et si jamais le vin n'a pas... Parce que beaucoup de gens qui utilisent le sans-soufre, ils ne filtrent pas. Alors ça, c'est double peine, parce que si vous ne filtrez pas, vous ne retirez pas les bactéries dans le vin, vous ne retirez pas les levures, donc vous pouvez avoir des redéparts en fermentation, vous pouvez avoir des odeurs très désagréables.
Comme quoi, par exemple?
Ça sent la fosse à purin, hein, par exemple, c'est pas franchement très agréable. Ou l'œuf pourri, ou la pomme blette. Beaucoup de vins blancs non sulfite sentent la pomme blette,
on dirait du sel.
Donc il faut faire très très attention, donc il y a des précautions à prendre, c'est un risque. Alors il y a des techniques plus modernes, je dirais, d'utiliser le sans-soufre, et des producteurs importants comme Gérard Bertrand fait les lignes de produits sans soufre, mais il recommande de ne pas les tenir longtemps, parce que l'autre risque, c'est l'absence de capacité de vieillir. Donc ce n'est pas à utiliser pour des vins à vieillir.
Philippe Orbach.
Il faut peut-être préciser, David, que c'est sans soufre ajouté, effectivement.
Sans soufre, oui, mais parce que tous les vins contiennent un peu.
Il y en a quand même toujours un petit peu, effectivement.
Il y a des microdoses produits en cours de fermentation.
Et ensuite, avant le XVIe siècle, il faut le savoir aussi, c'est intéressant dans l'histoire, c'était les vins jeunes qui se vendaient les plus chers.
Ben oui,
parce que comme ils ne se tenaient pas dans le temps, ben les vins qui étaient vieux, ils étaient vieux, comme si c'était des vieux stocks qu'il fallait passer, ils étaient bradés donc. Mm-hmm. Et c'est qu'à partir du XVIe siècle, la tendance est inversée, qui est grâce quelque part aux techniques, et le soufre en fait partie, on a pu conserver les vins et leur donner une valeur. À l'époque romaine, les vins, il fallait absolument les boire quand ils étaient faits. Quoi.
C'était des primeurs. Ou bien rajouter des épices, des herbes et du sucre.
Et de l'eau de mer. Ou de l'eau de mer, qui étaient des éléments qui cachaient finalement les défauts pour enlever le goût vinaigré ou des dérives aromatiques importantes qu'ils ne manquaient pas d'avoir.
Bon, bah, très bien. Suzanne Mettez, vous connaissez le château Lagnotte ou pas?
Bientôt.
Voilà. Et bien, il est là, Arnaud de la Villolie, le propriétaire, un monsieur très sympa. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tout le monde.
Alors vous, les sulfites, ça vous connaît ou pas à Bordeaux?
Oui, bien sûr.
après les malolactiques, enfin après les fermentations alcooliques, après les malolactiques, tous les viticulteurs sont bien contents dans les chais de sulfiter. Voilà ce qu'on a actuellement fait là pour nos cuves, et pas pour les barriques, puisque les barriques malo ne sont pas finies, mais c'est vrai que c'est très sécurisant pour le viticulteur.
Oui, voilà. Mais toujours avec des doses, on en parle, étaient tous d'accord à cette table, un petit peu.
Bien ajusté, voilà. Ouais.
Alors au départ, Arnaud, ça commence mal, hein, vous êtes plutôt économie, gestion, pas dans le vin.
Ben, j'ai fait des écoles de commerce et de droit.
Mais après, vous vous rattrapez.
Après, j'ai épousé un œnologue. Ça, c'est un mariage de raison.
Et puis, en 89, donc, vous êtes revenu sur les terres familiales. Voilà, 1989, c'est ça. Quoi. Voilà. La propriété familiale depuis 1821. C'est dingue, Arnaud.
Oui, mais on n'est pas les seuls. On est
mais c'est bien.
On n'est pas les seuls.
Et vous n'êtes pas chinois, en plus. Vous êtes français, pour l'instant.
Il faut savoir aussi que nous sommes propriétaires, depuis 1854, de trois monuments historiques dans le village. La chapelle, l'ermitage, les catacombes. Qu'on prête à l'office pour les visites.
Ah, c'est vous qui êtes propriétaire. Voilà. Donc, si on fait sur les catacombes
pour
avec
l'instant,
vous, là...
je ne sais pas où nous sommes avec
à Saint-Émilion.
Ah, à Saint-Émilion. Voilà. Merci, David Cobol, cette précision. Saint-Émilion, un petit mot sur l'appellation.
L'appellation, 5000 hectares, 1000 propriétaires. Nous avons 5 hectares, donc nous sommes un peu dans la moyenne, si ce n'est que nous sommes en cru classé. Voilà.
Et 5 hectares, donc vous n'avez jamais cherché à grappiller un petit hectare
non,
de plus.
Non, vivons heureux, vivons cachés, tout va bien.
5 hectares, donc
30 000 cols, c'est bien.
C'est bien ça. Les cépages, vous nous rappelez un peu les principaux cépages?
75% Merlot, le reste en Cabernet Franc et un petit peu en Cabernet Sauvignon.
D'accord. Et il n'y a pas de blanc chez vous. Hein.
Non. Ouais.
Et pourquoi il n'y a pas de blanc d'ailleurs? On pourrait en avoir, mais ça ne s'appellerait pas Saint-Émilion.
Autrefois, il y en avait beaucoup. Hein.
Ah, il était bon,
et
quoi.
Certains domaines d'aujourd'hui, on replante d'ailleurs, c'est sur des Sauvignons.
Et quand on entend tous ces gens parler de vin bio, de vin nature, alors on a bien compris que vous n'étiez pas bio, mais raisonné, on va dire. Vous dites que l'avenir, il est quoi? Dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce qu'on boira? Parce qu'il y a quand même beaucoup de pesticides dans le vin.
Oui, je crois qu'il faut être raisonnable. On a pas mal d'amis qui sont bio. Et qu'on respecte totalement et qui nous respectent
ils
totalement.
Ils sont bons
aussi.
Leur vin ou ils sont un peu le purin, on parlait David là.
Non,
d'abord,
ce sont des amis, on ne pourrait pas dire ça, et puis on est tous des confrères. Mais bon, ce sont des vins différents, mais je crois qu'il faut aller dans ce sens de la nature, de l'écologie, et on y va tous, doucement, mais on y va tous.
Vous le rappeliez donc, vous êtes classé, un grand reclassé de Saint-Émilion. Un mot sur ce classement qui a été polémique à une époque. Là, tout le monde s'est calmé, mais à l'époque, ce n'était pas facile.
Oui,
hein. Pourtant, il paraît beaucoup plus juste que le vieux classement de 1955.
Alors, le classement, c'est 1956, deuxième 69, là où on a d'ailleurs été classé, l'Agnotte, et puis après 86, et tous les ans, donc remise en cause des classements, et c'est vrai que le dernier était un petit peu houleux. Disons que je ne rentre pas trop dans la polémique, maintenant c'est établi, on verra.
Le prochain, c'est pour quand? 2023, ça?
Quelque chose comme ça, je pense. C'est compliqué, on ne sait pas trop.
C'est tous les 10 ans, donc c'est de 2023 ou 26.
Ou 26,
ouais. Ça dépend de quoi?
C'est de l'ambiance. C'est
que les bonnes résolutions en ce début 2017, il faut les prendre là directement. Oui. Est-ce que ça fait vendre mieux et plus cher d'être ou pas grand cru classé Saint-Émilion ou grand classé?
Ben, disons qu'on fait partie d'une association de cru classé, donc c'est vrai qu'à l'étranger, on peut se déplacer et les gens cherchent éventuellement... des crus classés, même si des grands crus sont merveilleux à côté, hein. Mais c'est vrai que être classé, c'est comme ça.
Il y a un vrai plus, quoi.
Ça a un impact sur le prix du foncier, hein, indéniable.
En plus,
également.
Quoi,
c'est... Voilà. Et alors, ce classement, comment ça se passe? C'est via une dégustation? Il y a un travail toute l'année? Ça vous motive à obtenir l'excellence?
Il faut se remettre en cause tous les ans, puisque chaque année c'est un nouveau bébé, donc chaque année il faut se remettre. Mettre les pieds à étrier, faire le mieux, le meilleur, en fonction du millésime. Et puis, tous les 10 ans, donc, une remise en cause des classements avec une dégustation des 10 derniers millésimes. Donc ça, il faut être comme assez performant. Et puis après, c'est des personnes qui viennent un peu à la proviste voir si votre terroir, voir si vous faites un peu de tourisme, le prix des vins, si vous faites un peu de promotion à l'extérieur, ainsi de suite. Donc c'est...
Il n'y a pas que la qualité intrinsèque du vin.
Il y a le terroir qui joue beaucoup, voilà. Ouais. C'est tout un ensemble.
Et le tourisme en Bordelais, on l'a parlé tout à l'heure, en Champagne, ça se développe, notamment au sein du Champagne Panier, en Alsace, des pionniers, et chez vous également.
Beaucoup, depuis le début, on a fait beaucoup de nos tourismes. D'abord parce que les gens aiment bien toucher le viticulteur, le propriétaire, ce qui devient de plus en plus rare, parce que c'est vrai qu'on est quand même...
David Cobol, arrêtez de toucher Arnaud. Oui. Non, mais il a pris des mauvaises résolutions cette année, je le sens bizarre là.
Il m'a invité à toucher le viticulteur, je l'ai fait.
Parce qu'ils veulent le contact que sur les étrangers, parce qu'on reçoit beaucoup d'étrangers aussi par des tour opérateurs, même des familles, hein. Et c'est vrai que le contact est assez sympathique et ils veulent parler.
Parler,
déguster,
quoi.
Et, voilà,
et vous êtes ouvert quoi, toute l'année?
Quasiment toute l'année sur rendez-vous.
Quoi. Donc si on vient l'année prochaine, enfin à la fin de l'année, le 31 décembre, vous serez ouvert quoi?
À minuit.
À minuit directement.
Quoi, avec du champagne.
Et alors, bon, 30 000 bouteilles, donc c'est un petit bijou à hein, votre château. Vous les vendez comment?
Alors, depuis le millésime 88, nous les vendons dans la maison Nicolas, Donc on essaie d'avoir la fidélité.
Et actuellement, vous avez quel millésime à la vente chez Nicolas ?
Là, ils commencent le 2013.
2013, quoi. C'est une belle année 2013 ou pas ?
Il faut reconnaître que le 2013, c'est une année compliquée.
Compliquée.
Très compliquée. Mais ils l'ont dégusté avant la mise en bouteille et ils l'ont acheté. Bien sûr, un prix qui est le prix normal du millésime, mais ils ont continué à acheter 2013 parce qu'ils ont trouvé qu'en fonction de l'année, c'est à peu près correct pour un 2013.
Et le potentiel du 2016, vous le sentez comment ?
Du 13 ?
16.
C'est magnifique. Ça, c'est comme le 15. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe, mais
les deux millésimes. Les échos sont plutôt bons.
Et puis les cuves, enfin, on a
pleines.
Fait. Oui, les quotas sont légèrement.
C'est important, oui, c'est un peu comme 59, ça me fait penser.
Donc c'est important parce qu'on a fait. On avait le plein, donc on est content.
Et Jean-Noël, en Champagne, c'est comment ?
Ah, c'est plutôt sympathique. Hein.
Aussi,
on décidera ou pas.
Millésimable ou pas, à votre avis ?
Ça, c'est en janvier, début, dans quelques jours.
Ouais, dans quelques jours, il serait.
Début d'année, on décidera de ça.
Vous nous appelez pour nous dire.
Ouais, encore un peu d'hésitation, ça sera une très belle année. Millésimé. On va voir.
Peut-être. Et pour terminer, donc, pour ce beau château, la deuxième génération, ce sont vos enfants.
Oui.
Est-ce qu'ils sont prêts à s'engager comme vous faites ou pas ?
Ils s'engagent tout à fait autre part.
Qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Puisqu'ils sont ingénieurs ou vont le devenir. Donc on les a jamais poussés à être dans le vin. Donc ils dégustent, ils sentent les choses.
Vous avez quatre enfants, il n'y en a aucun qui veut reprendre la boîte ?
Nous verrons.
On verra.
Demain,
quand même.
Demain est un autre jour. Pour l'instant, on s'en occupe avec mon épouse. Et on verra.
Non, mais c'est vrai. Enfin,
ils ont quel âge ?
C'est formidable. Il
est né à 25 ans et la dernière qui fait une école d'ingénieur à 18.
Faudra attendre le gendre alors.
Oui, exactement. Ça, c'est, voilà.
Il faut qu'il ait fait agro-œnologie alors.
Arnaud, vous connaissez le vignoble de Bandol ?
De Bandol, oui.
Oui. Vous aimez les vins de Bandol ?
Moi, je suis. J'ai une cave qui est très pleine de beaucoup de choses.
Notamment de Bandol.
Et du monde entier.
Ça tombe bien. On en parle avec David Kobold, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris. Alors, cette fiesta à Bandol, elle était plus sexy que celle de Bagnoul-sur-Mer ou pas ?
Je dirais pas ça. D'ailleurs, c'est pas le but tellement de mon propos. Je vais parler un peu de l'appellation de Bandol et de sa situation actuelle. Je vais pas faire le type de chronique que fait Philippe parce qu'il fait beaucoup mieux que moi. Donc, je vais parler de deux choses. D'abord, cette tradition des fêtes du vin, que je trouve une très belle tradition, qui est ancienne, puisque ça remonte au moment où on remerciait et on faisait bénir d'ailleurs la récolte, que ce soit du vin ou d'autres choses. C'était le cas de la fête des vendanges à Bagnols, très sympathique, auquel j'ai assisté cette année en septembre.
Vous avez parrainé, David.
Que j'ai parrainé, et j'ai également parrainé la fête du vin à Bandol cette année. Alors, donc, c'était deux choses qui se passaient à un moment légèrement différent. Là, pour Bagnols, la vendange venait d'être entrée, le vin n'était pas fait. Là, début décembre, le vin est fait ou en cours d'être fait. Il faut savoir, comme Philippe a souligné tout à l'heure, qu'autrefois, le vin se vendait jeune, puisqu'on ne savait pas le conserver. Donc, en fait, on fêtait le vin fini qui allait être vendu de suite. Aujourd'hui, la situation est très différente. On a inventé la bouteille industrielle, on a inventé le soufre, on a inventé la conservation et l'élevage long. Et le Bandol rouge a un élevage long, puisqu'on impose 18 mois d'élevage sur le Bandol rouge. Alors, le paradoxe de cela, or que Bandol est certainement l'appellation qui produit les plus grands rouges de Provence, même s'il y a de grands rouges ailleurs à Provence, est qu'aujourd'hui, cette appellation produit 80% de vin rosé. Donc ça, c'est problème numéro un pour l'avenir et pour l'image de cette appellation, puisque, au fait, la production de rosés, qui sont de plus en plus pâles, comme on sait, est un effet, pour moi, banalisant sur l'ensemble des vins. C'est-à-dire que ça devient un simple Côte de Provence, même s'il y a non Bandol dessus. Le Bandol tient son caractère profond d'un cépage qui est dominant dans les rouges, le cépage Mourvèdre. Il doit constituer d'ailleurs plus de 50% de l'assemblage. Et les meilleurs Bandols, ça peut monter jusqu'à 100%. C'est un très grand cépage qui ne mûrit pas très bien ailleurs en France, même si le réchauffement climatique l'aide à grimper un peu vers les Côtes-du-Rhône. L'autre problème de l'appellation Bandol, c'est un problème qu'on trouve sur toute la littorale méditerranée, c'est le mitage foncier. Et ce mitage est en train de manger petit à petit, de grappiller dans le vignoble, puisqu'un jeune qui reprend les vignes de ses parents, qui étaient peut-être en cave coopérative, n'a pas nécessairement ni la formation ni la volonté d'aller faire du vin. Eh bien, il attend qu'une chose, c'est que sa zone viticole devienne constructible et il vend pour beaucoup d'argent. Alors ça, c'est un danger à terme pour l'appellation. J'ai parlé avec le nouveau président de l'appellation qui est Guillaume Tarry, qui a un très bel domaine, tout petit d'ailleurs, mais tout en hauteur, qui s'appelle le domaine de la Bégude, qui fait parmi les meilleurs vins de Bandol d'ailleurs. selon moi, et je l'ai prouvé dans des dégustations à l'aveugle, lui, il a envie de redresser un peu la barre et de faire monter le pourcentage de rouge vers ce qui devait être, c'est-à-dire, à mon avis, au moins 50% de la production de Bandol. Il y a une petite production de blanc, anecdotique, mais parfois intéressante. Alors, comment faire pour arriver à ça? Ça, c'est son grand problème, et je pense que une des voies à poursuivre, c'est un assouplissement sur cette règle d'immobilisation du stock pendant 18 mois avant la vente. Parce qu'aujourd'hui, c'est très pénalisant pour les viticulteurs. Vous savez très bien à Saint-Émilion ce que c'est de porter des stocks sur des viticulteurs qui ne gagnent pas nécessairement très très bien leur vie à Bandol. Certains, oui, mais pas tous. C'est évidemment très attrayant de vendre tout son vin ou une bonne partie de son vin en rosé parce qu'on encaisse dans l'année qui suit la récolte. Tandis que pour le rouge, il faut attendre 2 ans, voire 3 ans, parce que ces vins sont des vins de garde. Donc il faut aussi porter ce stock plus longtemps que le minimum de garde. Et je pense que si on n'assouplit pas cette règle, on n'arrivera pas à redresser la barre vers les bandoles rouges. Ce que je dirais pour rajouter à cet argument est que les gens aujourd'hui, de moins en moins, ont le temps ni la volonté de stocker les vins pendant 10 ans, parce que les grandes bandoles se gardent aisément 30 ans, aisément. J'ai goûté des 98 qui étaient en pleine forme, par exemple. Et donc, il faut que les vins soient accessibles plus jeunes. Ça ne veut pas dire bâtardiser ou simplifier l'appellation, mais je crois qu'il faut injecter une part de souplesse. Quelqu'un qui veut élever son vin 18 mois, qu'il ait la possibilité, bien sûr, de le faire, mais quelqu'un qui décide qu'au bout de 12 mois d'élevage, ça suffit, eh bien, il le met en bouteille, il le vend. Donc, je crois que ça, c'est certainement la voie à adopter. Par ailleurs, les rosés peuvent être remarquables après un peu de garde. Ça, c'est le paradoxe que les gens ne connaissent pas. J'ai goûté un Tour de Ban 2010 rosé, qui était le meilleur rosé que j'ai goûté pendant tout le week-end. Alors, pour parler de la fête de seconde, cette fête était très sympathique et était passée sur le signe de Bandol dessiné. Ce qui était très sympa. Donc, tous les stands, tous les producteurs étaient le long du port, avec leurs barriques dans des tentes et avec des décors de bande dessinée. Donc on avait les Dalton, on avait le Joe Bar Teams, qui moi me parle parce que ça parle de moto. C'était Cédric Gravier de Domaine de Souffraine qui s'est déguisé en moto. On avait des choses comme ça et une très belle ambiance. Par ailleurs, on était amené à juger les jeunes vins, ce qui est un exercice toujours périlleux. C'est la cuvée des Langardes.
Les primeurs de Bandol.
Les cuvées de Langardes, on devait à l'aveugle estimer quelles 3 cuvées on estimait ayant la capacité de 2016 d'être gardées très longtemps. Je vais citer les vainqueurs quand même parce qu'ils le méritent. Domaine Bunon, Domaine de l'Olivette et Château d'Azur qui était un nouveau pour moi que je ne connaissais pas auparavant. Donc Bandol a, à mon avis, un très bel avenir à condition de bien gérer sa différence parce que c'est une appellation à part en Provence. Il y a Cassis pas très loin qui est aussi à part, chacun a ses individualités.
Bien, oui.
Mais je trouve que l'âme de Bandol, c'est dans ses grands vins rouges et il faut absolument conserver cette âme.
Oui, l'âme. Philippe, vous êtes partagé l'avis de David. Le rosé, c'est bien, mais Bandol, c'est... quand on a la chance de créer des vrais grands vins rouges, c'est dommage d'arrêter, quoi.
C'est absolument clair. C'est un vrai vin de gastronomie, c'est un vrai vin d'amateur, ça se garde très bien. Si on a la chance d'avoir quelques beaux millésimes ou quelques magnums de Bandol rouge, c'est vraiment un vrai bonheur. Et c'est une fête aussi très populaire parce que ça rassemble beaucoup de monde. Ouais, il y a des animations sur le port de Bandol, en plus, au mois de décembre.
Musique excellente.
Au mois de décembre, début décembre. Est-ce que vous savez qui sera le parrain d'ailleurs l'année prochaine?
Alors non, c'est qui?
Parce que l'année dernière, décembre dernier, c'était David. L'année d'avant, c'était moi, donc l'année prochaine, je pense que c'est vous.
Merci beaucoup, merci à tous. Fin de ce numéro 627 d'Invino BFM. Bonne suite au week-end sur BFM Business et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.